Bonsoir. Les marins de la Minerve reposent bien au fond de la Méditerranée. L'épave du sous-marin disparu il y a 51 ans a été découverte ce matin à une quarantaine de kilomètres de Toulon. Canicule épisode 2, nous irons en Occitanie voir comment les agriculteurs s'adaptent ou pas aux restrictions d'eau. Question posée aussi au téléphone sonne Yves Decan.
Et oui, 74 départements en alerte sécheresse, dont plusieurs sont en situation de crise, quasiment partout des restrictions d'eau. Va-t-il falloir s'y habituer? Comment mieux gérer nos ressources en eau? Vos questions au 01 45 24 7000.
La porte-parole du gouvernement, Sibeth Ndiaye, est en train de devenir une cible pour la droite dure, analyse de Yael Goz après le clash avec Nadine Morano. Emmanuel Macron réplique à Nicolas Hulot sur l'accord de libre-échange avec le Canada. Les Européens font un pas vers une prise en charge partagée des migrants secourus en Méditerranée. Et après l'Union soviétique et les États-Unis dans les années 60, la Chine en janvier, c'est l'Inde qui a envoyé ce matin une fusée vers la Lune. Sur le Tour de France, deuxième journée de repos à Nîmes et premier bilan avec Fabrice Rigobert avant d'attaquer les Alpes. Demain, un soleil de plomb presque partout, nous dira Sébastien Léas de Météo France.
France Inter.
Et soudain, les trois premières lettres du nom La Minerve sont apparues sur les images captées par un drone sous-marin américain. 51 ans après son naufrage au large de Toulon, l'épave scindée en trois morceaux a été localisée par près de 2400 mètres de fond. Le sous-marin avait coulé en quelques minutes avec 52 militaires à bord au cours d'une sortie de routine. Les photos sous-marines permettront peut-être de comprendre les causes du drame. Les proches des disparus sont émus et soulagés. À Strasbourg, Marie Breitenberger a perdu son frère, matelot mécanicien de 19 ans. Elle n'a jamais pu en faire le deuil. Lila Lefebvre l'a rencontré.
Pas d'appel du ministère des Armées, mais une pluie de mails d'autres familles de victimes. C'est comme ça que Marie Breitenberger a appris que la Minerve a été retrouvée.
Moi, je dis que ça va m'apaiser. Parce que ça, dans une certaine mesure, ça a brisé ma vie.
À son petit frère Jacques, qui était matelot mécano en 1968.
Il venait d'avoir 19 ans en novembre. Et il est mort dans l'année de ses 20 ans. Et
les recherches ont été rapidement interrompues après le naufrage, faute de moyens techniques suffisants.
Et on en est resté à ça.
Pendant 50 ans.
50 ans, parce que nous, les familles, on ne se connaissait pas. On est éparpillés en France. Et toute ma vie, finalement, a été bouleversée par ça.
Mais il y a un an, Marie est contactée par le fils du commandant de la Minerve. Il veut réunir les familles pour demander de nouvelles recherches qui ont donc commencé au début du mois avec des moyens techniques plus performants.
Ça fait même pas 10 jours.
Marie Breitenberger attend maintenant la cérémonie officielle d'hommage qui sera organisée dans les mois qui viennent au-dessus du site de l'épave au large de Toulon, si son état de santé le lui permet.
Et comme toutes les épaves de la Marine nationale, la Minerve restera au fond de l'eau. Florence Parly, la ministre des Armées, s'associe à l'émotion des familles et salue l'engagement de la Marine nationale et du commissariat à l'énergie atomique qui a recalculé la zone de recherche. Les fortes chaleurs devraient durer moins longtemps qu'il y a 3 semaines, mais on pourrait battre quelques records de température au nord de la Loire. Cette nouvelle canicule risque d'aggraver la sécheresse qui impose déjà des restrictions d'eau dans les trois quarts des départements. EDF annonce qu'elle va arrêter les 2 réacteurs de la centrale nucléaire de Golfech pour ne pas faire bouillir l'eau de la Garonne. Comment s'adapter à des étés sans pluie? C'est le défi posé aux agriculteurs que Stéphane Iglesis a rencontré en Occitanie.
Malgré les nouvelles restrictions d'eau, voire interdiction de prélèvement à la veille du week-end, certains exploitants peuvent puiser dans leurs réserves d'eau faites cet hiver. C'est le cas de Christian Vergne, qui n'arrose que 20 hectares sur les 100 qu'il possède à Roquecor.
On essaie déjà de faire attention de ne pas arroser la route, d'arroser que le champ qui a besoin et d'arroser le maximum la nuit. On a choisi des fois des assolements qui sont importants, on a besoin de tirer un revenu, donc on va arriver à arroser le jour. Quand on arrose le jour, l'eau elle s'évapore, elle revient dans le milieu. On ne la consomme pas forcément, on l'utilise. C'est pour ça qu'il faut la stocker.
Patrice Bénabin, autre agriculteur de ce plateau du Quercy, n'y va pas par 4 chemins.
L'été, quand il fait chaud, si on n'arrose pas, tout meurt. Donc moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Les semences, il n'y en aurait pas. Et les cultures traditionnelles, avec les rendements qu'on fait sur nos plateaux, c'est impossible de vivre avec 100 hectares aujourd'hui.
Éric Lartigue arrose ses 23 hectares de culture maraîchère à Vernières et il assume.
L'eau, c'est vital. C'est pas parce qu'on va manger 10 hectares de terre, 50 hectares de terre à l'endroit. Je vous dis, vous prenez tous les ronds-points qu'il y a en ville, une ville comme Montauban, je suis sûr qu'il y a 10 hectares de ronds-points ou 15 hectares de ronds-points bouffés. Il a plus les arroses la nuit.
Sans le dire ou parfois sans se l'avouer, ces exploitants sont passés à des cultures plus économes en eau, tout en souhaitant creuser des lacs pour retenir l'eau de l'hiver, pour arroser en été, bref, comme avant. Toulouse, Stéphanie Glésis, France Inter.
La chaleur et son cortège de pollution. Notez que demain à Paris et Petite Couronne, à l'intérieur de la 86, ne peuvent rouler que les véhicules munis d'une vignette critère 0, 1 ou 2. Circulation différenciée aussi à Lyon, Caluire et Villeurbanne, mais avec les critères 0 à 3. Après la rumeur d'une contamination de l'eau de Paris au tritium radioactif, le parquet de Paris ouvre une enquête pour diffusion de fausses nouvelles. C'est très rare. La rumeur est partie sur les réseaux sociaux il y a quelques jours d'une femme qui se disait infirmière à l'hôpital Bichat. C'était une fausse alerte. La semaine dernière, plusieurs magasins de bricolage de l'Essonne avaient signalé des achats massifs d'acide chlorhydrique, alimentant chez les policiers la peur de jets de cocktails Molotov. Après enquête, il s'avère que ces achats n'étaient pas inhabituels ou ont pu être justifiés. C'est la petite polémique politique qui a enflé sur les réseaux sociaux ce week-end avec de forts relents racistes. Nadine Morano, députée européenne Les Républicains, a attaqué la porte-parole du gouvernement pour, je cite, ces inepties débitées souvent en tenue de cirque et de poursuivre dans le même registre, qualifiant Sibeth Ndiaye de Sénégalaise ayant obtenu la nationalité française il y a 3 ans avec de grandes lacunes sur la culture française. Fin de citation. Ce matin, sur BFM TV, Sibeth Ndiaye a dénoncé des propos racistes qui ne me touchent plus, dit-elle, tout en estimant que la parole politique devrait être exemplaire. Bonsoir Yael Goz.
Bonsoir Sarah.
Sibeth Ndiaye est-elle devenue la nouvelle tête de turc de la droite dure ou de la droite extrême?
Alors comment ne pas faire le parallèle avec Christiane Taubira et l'hystérie sur les réseaux à l'époque de la manif pour tous? Eh bien, au cabinet de Sibeth Ndiaye, on regarde à la loupe ce qui se passe sur ces réseaux en ce moment et la conclusion, c'est que quoi qu'elle dise, quoi qu'elle fasse, il faudra composer avec plusieurs milliers de tweetos hostiles ou carrément racistes. Et selon un schéma qui se répète, d'abord une charge de la mouvance identitaire qui provoque un pic d'activité, première lame, amplifiée par des médias comme Russia Today ou Sputnik, suivie d'une deuxième lame, la réaction d'élus qui flirtent avec la ligne rouge. Comment répondre? La stratégie retenue, c'est justement de ne pas répondre sur le terrain des origines. Parce que, comme le confie ses proches, on est venu la chercher sur ses compétences, pas sur un style ou une couleur. Et si elle casse les codes, ce n'est pas du marketing, jure ses proches. La coupe afro, c'était 2 mois avant de devenir ministre. Les kebabs, ben oui, elle aime la junk food et ça remonte à ses années étudiantes. Ses tenues, fan de couture, elle confectionne elle-même depuis 2010 certaines de ses robes. Le 14 juillet, son t-shirt était bariolé, mais surtout bleu, blanc, rouge. Aucune gêne exprimée ni à l'Elysée ni à Matignon. Bien au contraire, ce lundi, Sibeth Ndiaye était en lien avec eux pour préparer le dernier conseil des ministres mercredi avant la pause, celui qui va consacrer le projet de loi bioéthique.
Merci Yael Goz. Ce matin, Nicolas Hulot appelait les parlementaires à avoir le courage de dire non au CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Pour l'ancien ministre de l'écologie, il faut rouvrir les négociations pour éviter l'arrivée de produits contenant pesticides ou perturbateurs endocriniens. Cet après-midi, c'est Emmanuel Macron qui lui répond. Le président de la République appelle à un peu de cohérence. Écoutez.
Je pense qu'aujourd'hui, la ratification de cet accord va dans le bon sens. Lorsque j'ai été élu, et lorsque d'ailleurs Nicolas Hulot a rejoint le gouvernement d'Édouard Philippe comme ministre d'État, le texte était signé. Et donc il n'y avait plus qu'à être ratifié. Un très gros travail a été fait par le gouvernement, par Nicolas Hulot, ministre d'État, pour améliorer ce texte et obtenir des garanties supplémentaires. Quand on s'est battu pour améliorer un texte dans une condition, on ne peut pas dire quelques mois plus tard le contraire. Ou alors il fallait le dire quand on était en responsabilité. Quel est le résultat de cette course au mieux-disant? La fermeture de toutes nos frontières? Si avec le Canada de Justin Trudeau, nous ne savons pas trouver des accords et des moyens de respecter nos engagements climatiques portés de part et d'autre, avec qui signera-t-on des accords commerciaux? Avec qui?
La France et l'Allemagne tentent de convaincre leurs partenaires européens de s'entendre sur l'accueil des migrants secourus en Méditerranée. Une réunion s'est tenue ce matin à Paris pour poser les bases d'un accord espéré pour la rentrée. Bonsoir Louise Baudet.
Bonsoir Sarah.
L'idée c'est de se répartir l'accueil entre pays volontaires pour ensuite convaincre l'Italie et Malte de rouvrir leurs ports.
Oui, faire à 8 ou 14 États membres, ce qui a été impossible à 28, répartir sans psychodrame les migrants qui débarquent dans les ports maltais et surtout italiens. En dépit des blocus et des coups de menton d'un Matteo Salvini, c'est l'objectif de cette coalition d'États volontaires que Berlin et Paris espèrent former. 8 pays sont donc d'accord, confirme ce soir Emmanuel Macron, la France et l'Allemagne, mais aussi la Finlande, le Luxembourg, le Portugal, la Lituanie, la Croatie et l'Irlande. 8 pays, bientôt 14, promet le président français. français. Sauf que Matteo Salvini, l'homme fort du gouvernement italien, refuse tout net cette règle de répartition qui l'amènerait à rouvrir ses ports. Malte n'est pas d'accord non plus. Sans oublier à l'Est, les éternels réfractaires à l'accueil de réfugiés, Hongrie et Pologne en tête. Alors, 8 pays engagés dans le mécanisme de répartition, c'est déjà cela, plaide l'Élysée, et cela devrait permettre d'empêcher qu'un nouveau débarquement devienne le feuilleton de l'été, problème humanitaire et problème politique. Emmanuel Macron veut montrer que l'Europe se préoccupe du sort des migrants et qu'elle agit au rebours de ce que dénoncent les ONG.
Merci Louise Baudet, vous étiez avec Laurent Lucas à la technique. À Londres, réunion de crise ce matin autour de Theresa May, la première ministre qui quitte ses fonctions après-demain. La Grande-Bretagne propose ce soir de mettre en place une mission de protection maritime européenne dans le détroit d'Ormuz, où l'un de ses pétroliers a été arraisonné vendredi par l'Iran avec son équipage. Alors que l'accord historique sur le nucléaire iranien de 2015 paraît bien loin, la mort de l'un de ses artisans a été annoncée ce matin, le japonais Yukiya Amano, patron de l'Agence internationale de l'énergie atomique, était malade depuis plusieurs mois. En Syrie, au moins 43 civils ont été tués dans des bombardements sur la région d'Idlib, dernière poche rebelle qu'essaye de reprendre le régime de Bachar el-Assad. Information de l'Observatoire syrien des droits de l'homme qui attribue ses raids à l'aviation russe, Moscou dément. Décollage réussi ce matin et objectif lune pour la fusée indienne, avec des moyens financiers beaucoup plus faibles que ceux des grandes puissances qu'ils l'ont fait jusqu'ici. L'agence spatiale indienne a prévu d'allunir en septembre. Un voyage aussi plus long car le module va d'abord prendre de la vitesse en tournant autour de la Terre avant d'être catapulté vers la Lune. À New Delhi, Sébastien Farsi. 3,
2, 1, 0.
Le deuxième essai fut donc le bon. Après l'avortement du lancement, la semaine dernière, l'énorme fusée de 640 tonnes a finalement percé les nuages du sud de l'Inde. Objectif, la Lune. C'est la plus lourde charge jamais lancée par l'agence spatiale indienne, car elle transporte pour la première fois un véhicule robotisé. Cet engin à 6 roues devrait se poser vers le 6 septembre sur notre satellite et explorer pendant 2 semaines une aire de 500 mètres de long située dans le sud de cet astre, une zone rarement étudiée. Si cet alunissage délicat se déroule sans accroc, l'Inde deviendra le 4e pays après les États-Unis, la Russie et la Chine à y poser un tel véhicule. Les Indiens n'ont envoyé pour l'instant qu'une sonde autour de la Lune il y a 11 ans qui avait permis de prouver la présence d'eau. Ce nouveau véhicule robotisé, appelé Pragyan ou Sagesse en sanskrit, devra lui réaliser de plus amples prélèvements afin de connaître la composition minérale et biologique de cette partie inexplorée de la Lune. À New Delhi, Sébastien Farsi, RFI pour France Inter.
L'Union européenne demande à Israël de cesser immédiatement les démolitions de bâtiments palestiniens à Jérusalem-Est et dénonce une politique de colonisation contraire au droit international. Israël affirme que les immeubles sont trop près du mur que l'État hébreu construit depuis 2012 pour se protéger des attaques venues de la Cisjordanie occupée. France Inter, 19h13, c'est l'heure du journal du Tour. On retrouve Fabrice Rigobert au soir d'une journée de repos bien méritée à Nîmes.
Une journée sans vélo pour le maillot jaune Julien Alaphilippe et un après-midi en famille, loin de la foule. Une heure de home trainer, une sieste, massage et séance entre les mains de l'ostéopathe cet après-midi pour Thibaut Pinot. Les deux Français sur lesquels tous les regards sont désormais braqués se sont acclimatés tout doucement à la forte chaleur, plus de 37 degrés aujourd'hui à Nîmes. Tout a été mis en œuvre pour les laisser récupérer avant une dernière partie de tour redoutable. Il y a une semaine, Thibaut Pinot était sur la frustration de sa minute 40 perdue dans une cassure à cause du vent, avec l'idée d'aller gagner une étape. Une semaine plus tard, il est allé s'imposer au sommet du Tourmalet pour revenir à 3 secondes du podium, à 15 secondes du vainqueur du tour sortant et à 1 minute 50 du maillot jaune. Il refuse toutefois de se voir trop beau, Thibaut Pinot.
Non, je me sens encore pas le favori et loin de là. Mais c'est sûr, sur les 2 derniers jours, j'étais peut-être le plus fort. Mais le tour, c'est jusqu'à dimanche, donc il va passer encore beaucoup de choses.
Thibaut Pinot détendu, sans fatigue apparente, contrairement au maillot jaune Julien Alaphilippe, qui semblait plus fatigué que la semaine dernière. Il faut dire qu'il a très clairement montré ses limites dans la dernière étape des Pyrénées. Il a pourtant l'envie de prolonger son bail en jaune, de garder le maillot qu'il portera demain pour la 11e fois.
Je pense à prendre les jours comme ils viennent. Très content de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Très heureux de porter encore le maillot. Je l'ai défendu du mieux que je pouvais hier. C'est que du bonus depuis un petit moment. J'ai envie que ça continue, donc je donnerai tout jusqu'à la fin. Quoi.
Avec 6 coureurs en 2 minutes 14, dont 2 Français, le tour n'a jamais été aussi palpitant. Peut-être depuis 30 ans si l'on met de côté les années de plomb. Surtout que l'ex-Sky, la formation Ineos, a elle aussi montré ses limites dans ce tour. Elle n'écrase plus la concurrence comme les années précédentes. Nicolas Portal, directeur sportif d'Ineos, le concède.
On ne peut pas faire mieux que ce qu'on a fait maintenant. On est quand même deuxième et cinquième. Hier, on a senti que l'équipe allait un peu mieux. Ce qui compte, c'est maintenant, en fait. Il faut bien gérer et puis à un moment donné, quand il y a des opportunités, dans un final, il faut tenter, quoi.
La sincérité de Romain Bardet, le leader d'AG2R La Mondiale, véritable naufragé des deux premières semaines du tour, à la dérive sur les pentes du Tourmalet, est revenu aujourd'hui sur sa déconvenue, sans concession.
Cette déroute a symbolisé forcément quelque chose de... Ça a éclaté au grand jour. Il faut accepter que cette 7e édition soit pour l'instant la plus mauvaise pour moi et comprendre pourquoi, surtout. Il faut garder la tête haute et aller de l'avant, donner juste tout ce que j'ai pour qu'en tant qu'homme, j'en sorte grandi et je me dois de réagir.
Demain, 177 km sont au programme de la 16e étape en pleine canicule autour de Nîmes. Un véritable balai s'organisera toute la journée pour fournir la quinzaine de bidons nécessaires à chaque coureur pendant l'étape. Le peloton à l'épreuve de la canicule en attendant les sommets des Alpes à plus de 2000 mètres d'altitude en fin de semaine.
Merci Fabrice Rigobert.
La météo ? Avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Et avec Sébastien Léas de Météo France, bonsoir.
Bonsoir Sarah,
il fait de plus en plus chaud.
Oui, la chaleur va s'accentuer. Les températures déjà largement au-dessus des valeurs de saison aujourd'hui vont encore monter d'un cran. Cet après-midi, il a fait jusqu'à 41 degrés du côté d'Aubenas en Ardèche, mais aussi à Montclus dans le Gard. Demain, c'est dans un large quart sud-ouest que les températures vont s'emballer. On attend notamment 42 degrés à Bordeaux, battant ainsi le record actuel de chaleur de 40,7 degrés et qui date du 4 août 2003. Avec 41 degrés prévus, Angers pourrait également battre son record historique demain après-midi. Il fera jusqu'à 40 degrés au Mans, à Clermont-Ferrand, 39 degrés à Biarritz et à Auxerre, 38 degrés pour Paris, 37 degrés à Grenoble, Besançon et Nancy et 35 degrés à Valenciennes, au Havre, à Vannes et à Nîmes, alors qu'on n'attend que, entre guillemets, 31 degrés à Perpignan et à Nice.
Mais avec quand même quelques averses.
Oui, la journée sera tout de même bien inondée de soleil, des nuages vont fleurir sur les Pyrénées et les Alpes, les bourgeonnements nuageux les plus épais donneront des averses l'après-midi. Entre la Bretagne, la Basse-Normandie, les Pays de la Loire et le Poitou-Charentes, les éclaircies seront belles et prédominantes, mais des bancs nuageux vont transiter dans le ciel. Ces nuages pourront s'accompagner d'ondées passagères, mais une évolution vers des averses localement orageuses n'est pas exclue en fin de journée. Et puis dans le sud de l'Aquitaine, après une journée très chaude et ensoleillée, des orages risquent d'éclater en soirée, s'accompagnant également de fortes rafales de vent.
Merci Sébastien Léas.